Deuxième texte, variante du premier. Apologie pour une banqueroute. Le mot de banqueroute est un de ceux qu'on emploie avec gêne, qui sonne mal, comme adultère ou escroquerie. Quand on le prononce au sujet des finances de son propre pays, on parle volontiers d'humiliante banqueroute. On peut chercher des excuses à une banqueroute, on peut trouver des raisons d'atténuer telle ou telle responsabilité, mais personne n'a même l'idée que la banqueroute ne procède pas en quelque manière d'un péché. Personne ne considère qu'elle puisse constituer un phénomène normal. Déjà le vieux Céphale, pour faire comprendre à Socrate qu'il avait mené une vie irréprochable, lui disait « Je n'ai trompé personne et j'ai payé mes dettes ». Socrate, ce mauvais esprit, doutait que ce fût là une définition suffisante de la justice. Le français moyen, et nous sommes tous la plupart du temps des français moyens, applique volontiers à l'État le critérium de Céphale, du moins en ce qui concerne le second point, car quant au premier, personne ne demande à un gouvernement de ne pas mentir. Proudhon, dans ce lumineux ouvrage de jeunesse intitulé « Qu'est-ce que la propriété ?», prouve, par le raisonnement le plus simple et le plus évident, que l'idéal de ce bon Céphale est une absurdité. L'idée fondamentale de Proudhon, dans ce petit livre trop méconnu, c'est que la propriété est non pas mauvaise, non pas injuste, mais impossible. Il entend par propriété, non pas le droit de posséder un bien quelconque, mais le droit, bien plus important, de le prêter à intérêt, quelque forme d'ailleurs que prenne cet intérêt, loyer, fermage, rente, dividende. La démonstration de Proudhon repose sur une loi mathématique fort claire. La fructification du capital implique une progression géométrique. Le capital ne rapporterait-il que 1%, il s'accroîtrait néanmoins selon une progression géométrique à raison de 1 plus 1%. Toute progression géométrique engendre des grandeurs astronomiques avec une rapidité qui dépasse l'imagination. Un calcul simple montre qu'un capital ne rapportant que l'intérêt dérisoire de 1% double en un siècle, se multiplie par 7 en 2 siècles. Et avec l'intérêt modeste de 3%, il est centuplé dans le même espace de temps. Il est donc mathématiquement impossible que tous les hommes d'un pays soient vertueux à la manière de Céphale pendant 2 siècles. Car, bien qu'une portion relativement petite des biens meubles et immeubles soit louée ou placée à intérêt, il est mathématiquement impossible que la valeur de cette portion centuple en quelques générations. S'il est nécessaire à l'ordre social que les gens payent leurs dettes, il est plus nécessaire encore que les gens ne payent pas leurs dettes. Depuis qu'existent la monnaie et le prêt à intérêt, l'humanité oscille entre ces deux nécessités contradictoires et toujours avec une inconscience digne d'admiration. Si on s'amusait à reprendre toute l'histoire des dettes payées et non payées, on arriverait à rendre compte d'une bonne partie des événements passés. Chacun sait que, par exemple, la réforme de Solon à Athènes, la création des tribuns à Rome, sont issues de troubles suscités par l'endettement excessif de la population ou de l'État. Il n'y a jamais eu d'autre remède à l'endettement que l'abolition des dettes, ouverte ou déguisé. Nous savons construire des mécanismes qui reviennent à l'état initial dès qu'une certaine limite est dépassée. Mais nous ne savons pas construire de tels agencements automatiques pour la machine sociale. Les souffrances, le sang et les larmes des hommes en tiennent lieu. Nous pouvons aujourd'hui nous livrer à des méditations amères sur le phénomène de l'endettement. L'État français a été engagé jusqu'à mi-corps par la guerre dans cet engrenage mathématique dont le pays ne semble pas pouvoir se libérer. Le sang a été consommé gratuitement et bientôt oublié, ou peu s'en faut. Mais les familles qui ont donné leurs fils ont prêté leur argent, et ce prêt, vieux de plus de 20 ans, nous étrangle tous les jours davantage. Machiavel disait que les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Il avait raison, sans doute, mais la justesse de cette formule nous apparaîtrait aujourd'hui d'une manière plus éclatante si on disait « fils » au lieu de « père ». Aucun gouvernement n'a osé encore annoncer qu'il considérait comme nulles les charges financières léguées par la guerre. Malgré toutes les difficultés d'une telle opération, il faudra pourtant un jour en arriver là, car il est impossible que ces charges continuent longtemps encore à faire boule de neige. C'est d'autant plus impossible que les charges qui procèdent de la guerre éventuelle font une autre boule de neige non moins redoutable. Car aujourd'hui encore, les mêmes hommes qui donneraient sans hésiter leur sang ou celui des leurs et ne demanderaient rien en échange, ont besoin de 4% et d'une garantie de change pour collaborer à la défense nationale.